Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, vous connaissiez sans doute la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, mais connaissez-vous la mémoire autobiographique ? Elle désigne le processus par lequel on se souvient des événements vécus avec leur contexte, la date, le lieu ou l'état émotionnel. La mémoire autobiographique est une sous-partie de la mémoire à long terme. Elle s'oppose à la mémoire sémantique, dont nous parlions à l'instant, qui est la mémoire des faits et des concepts. Cette distinction fut introduite par le psychologue canadien Handel Tulving en 1972. Aujourd'hui, on sait que la mémoire autobiographique est multiple. Elle contient des connaissances générales ainsi que des expériences uniques, propres à un individu, qui ont été accumulées depuis l'enfance et qui permettent à ce même individu de se construire un sentiment d'identité. Pour revenir en détail sur cette mémoire autobiographique, faire la distinction avec la mémoire épisodique et mémoire sémantique, revenir sur les expériences réalisées pour mener à bien cette enquête sur notre mémoire, Pascal Pulineau est avec nous en studio. Pascal Pulineau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation au studio de Canal Académie. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Descartes, directeur d'une équipe de recherche CNRS. Vous avez réalisé une communication en février 2009 à l'Académie des sciences sur la physiopathologie de la mémoire autobiographique, étude par neuroimagerie. Je me suis appuyée sur cette séance de l'Académie pour préparer cette émission. Alors j'ai donné une définition rapide de la mémoire autobiographique. Peut-être pourriez-vous nous préciser exactement ce qu'elle recouvre et à partir de quand on s'est mis à parler de mémoire autobiographique, Pascal Pulineau.
Oui, alors justement, votre définition illustre bien le flou artistique qu'il y a entre la définition qu'on donne actuellement à cette mémoire, puisque en effet, cette mémoire, c'est une mémoire dont le contenu réfère à nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment son objectif. Et ce qui la caractérise par rapport à n'importe quelle autre information, c'est le fait que l'information doit parler de nous. Alors après, bien sûr, dans les années 70, on a considéré souvent que la mémoire autobiographique était une mémoire épisodique. Et comme je le disais, donc à cette séance, c'est que finalement, nous avons beaucoup évolué depuis cette première proposition que la mémoire autobiographique était une mémoire épisodique, pour dire que finalement, cette mémoire autobiographique, elle a des aspects épisodiques. Donc je rappelle que les aspects épisodiques, c'est le fait de pouvoir voyager dans le temps et vous rappeler, comme si c'était hier, d'un événement très particulier de votre vie, votre mariage, la réussite d'un examen, par exemple, mais également des informations que l'on dit décontextualisées. C'est-à-dire des informations dont, quand on les rappelle, on n'est pas obligé de se rappeler de comment on les a apprises. Et donc ça, c'est proche plutôt de la mémoire sémantique. Alors, ce qui distingue les aspects sémantiques de la mémoire autobiographique, c'est que souvent, cette mémoire sémantique autobiographique est issue de souvenirs épisodiques qui se sont décontextualisés au fil du temps. C'est-à-dire, au fur et à mesure de vivre des expériences, par exemple, similaires, eh bien, on va plutôt créer une représentation générale, par exemple les vacances à la campagne, les week-ends entre amis, et on ne va pas se rappeler forcément de tous les épisodes de notre vie, heureusement, sinon ça serait vraiment dur de tout se rappeler, et donc on va plutôt avoir une représentation de tous les éléments communs entre tous ces épisodes. Cependant, souvent, on va quand même conserver l'accès à un événement marquant. Un week-end où il s'est passé quelque chose de très particulier, un repas avec des amis où vraiment je m'en souviens très bien. Donc ça, c'est conservé dans le temps. Donc finalement, on pourrait dire que au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, la part sémantique de notre mémoire autobiographique s'agrandit et la part épisodique devient de plus en plus ténue. Mais néanmoins, il suffit qu'il en reste quelques-uns, des marquants et qui jalonnent les différentes périodes de notre vie pour finalement nous donner ce sentiment d'identité, de continuité dont parlait Tulving notamment.
Alors nous parlerons en détail effectivement du vieillissement d'une personne et de ce glissement vers la mémoire sémantique de ces informations, de cette mémoire épisodique. Est-ce que la mémoire autobiographique est faite à travers nos sens, puisque c'est comme ça que nous réalisons nos souvenirs? Est-ce que quelqu'un qui aurait un handicap, par exemple visuel ou auditif, on parle également de mémoire autobiographique?
Oui, bien sûr, puisque comme je vous disais, la mémoire autobiographique, c'est la mémoire de soi. Donc, quelqu'un qui a un handicap perceptif, il va privilégier un autre canal perceptif qu'il a de plus développé. Et donc, il aura sa propre création de souvenirs autobiographiques qui le définiront lui-même. Et donc, il aura tout à fait une mémoire autobiographique. Alors, il est vrai qu'il y a un sens qui est privilégié dans cette construction de la mémoire autobiographique. C'est justement les images mentales, la capacité à avoir des images mentales visuelles lorsqu'on génère un souvenir. Nous avons donc une représentation mentale de ce souvenir. On voit des images, des acteurs, des lieux, etc. Et donc, il est vrai que les personnes qui, pour des raisons, soit cognitives, soit lésionnelles, ont des troubles dans leur capacité à générer des images mentales, vont avoir des difficultés à voir la part justement épisodique de leur souvenir autobiographique.
Alors, vous en parlez très clairement de cette mémoire autobiographique. Il me semble que finalement, cette distinction aussi claire et assez récente, ça date de 2005.
Peut-être un peu avant 2005, mais on peut dire que, disons, les années 2000 ont marqué vraiment un passage avec une conception beaucoup plus multifactorielle et multifacette de la mémoire autobiographique, de plus en faire une équivalence de la mémoire épisodique et de voir plutôt que c'était un système de référence à soi qui avait différents aspects, dont des aspects épisodiques et des aspects sémantiques. Et je peux dire qu'actuellement, c'est une conception qui est quand même assez généralisée.
Assez généralisée, puisque actuellement, les scientifiques ne sont pas encore d'accord sur cette question ?
Bien, il y a des scientifiques qui utilisent peut-être parfois des conceptions anciennes, des modèles, et qui vont encore apprendre à leurs étudiants que mémoire autobiographique égale mémoire épisodique. Mais je dirais que notamment avec l'étude des patients en neuropsychologie, montrant cette dissociation entre les deux aspects, vont plutôt maintenant favoriser l'idée que vous avez au moins deux aspects dans cette mémoire, des aspects épisodiques, des aspects sémantiques, qui s'organisent pour créer le souvenir autobiographique. Puisque, si vous voulez, quand vous créez un souvenir autobiographique, vous reconstruisez finalement votre passé, à la fois avec des éléments sémantiques de vous-même, auxquels vous allez ajouter des éléments épisodiques qui vont teinter de détails perceptivo-sensoriels un événement particulier de votre vie. Et donc, les deux aspects ne sont pas dissociés dans notre mémoire. Vous utilisez vraiment les deux pour accéder à des souvenirs. Plus vous allez avoir cette capacité à aller jusqu'aux détails perceptivo-sensoriels et plus vous aurez un vrai souvenir épisodique dans le sens où vous allez vraiment revivre un événement très particulier de votre vie.
Lors de votre communication et également dans l'article que vous m'avez communiqué, qui reprend donc l'objet de vos recherches, de vos travaux, vous parlez bien sûr de Tulving et d'une étude de cas sur une personne amnésique, et justement qui lui a permis de pointer et de mettre en avant cette idée qu'il avait de mémoire autobiographique. Vous pourriez nous en dire plus sur cette étude ?
Oui, c'est une étude que j'aime bien, qui est particulièrement intéressante parce que souvent les chercheurs utilisent Tulving et sa définition de la mémoire épisodique pour justement dire la mémoire autobiographique égale la mémoire épisodique. Et lui-même, Tulving, et c'est quand même assez ancien puisque c'est un article qui date de 1988, à travers l'étude d'un patient amnésique, nous montre bien que dans la mémoire autobiographique, il y a des aspects qui sont épisodiques et qui sont perturbés dans l'amnésie, alors que des aspects plus généraux, sémantiques, donc d'après Tulving lui-même, sont préservés. Et donc c'est assez intéressant parce que ça illumine un autre aspect de la mémoire autobiographique qui est qu'est-ce qui est le plus fondamental dans la construction et le maintien de votre identité ? Est-ce que c'est finalement de savoir et d'avoir des connaissances sur soi ou est-ce que c'est se revivre soi-même dans le passé ? Alors là, il y a encore des oppositions entre les chercheurs et donc Tulving est l'un des chercheurs qui dit que bien sûr, savoir qui on est, donc avoir des connaissances sémantiques sur nous, c'est fondamental pour notre identité, mais néanmoins, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ces patients amnésiques, comme le patient dont je décrivais le cas, lui, il savait très bien qui il était, même il se rappelait des épisodes qu'il avait l'habitude de vivre. Mais il était incapable d'évoquer le moindre événement épisodique de sa vie, donc le moindre événement marquant, émotionnellement marquant, qui jalonnait sa vie. Et donc finalement, comme le décrit Tulving lui-même, il avait eu un passé, mais il était désincarné, comme un peu le passé d'une autre personne. Et donc ce qui aboutit à l'idée que pour avoir une vraie identité structurée, il n'y a pas seulement le fait de je sais qui je suis, je sais que je suis une femme, je sais que je suis enseignant-chercheur à l'université, mais il faut aussi se souvenir de pourquoi on sait. Et donc, c'est ce souvenir aussi de pourquoi on sait qui donne la chaleur et l'intimité dont parlait donc James, un philosophe très célèbre, et qui justement nous permet de nous revivre dans le passé. Et donc, si vous n'avez pas ces aspects, il manque quelque chose à votre identité.
Ce qui voudrait dire alors que ces informations sémantiques et puis les informations émotionnelles sont placées différemment dans le cerveau, puisque là on a affaire à une personne amnésique.
Alors oui, cette personne amnésique avait une lésion quand même relativement diffuse, donc on ne pourrait pas dire que c'est un cas qui nous permette vraiment stricto sensu d'explorer spécifiquement les bases neurales. On a d'autres méthodes maintenant, mais ce premier cas était un patient donc, qui avait quand même des lésions qu'on appelle du lobe temporal interne et donc qui touchait le réseau limbique, hippocampique, mais aussi des régions plus étendues. Et donc l'idée, c'est que les régions, notamment les régions du lobe temporal interne, nous permettent d'évoquer tous les aspects épisodiques de notre mémoire autobiographique. Et cela, alors ça c'est encore un débat, mais nous on est plutôt dans cette perspective, quelle que soit l'ancienneté de vos souvenirs. Et donc en effet, ce patient était incapable de voyager dans le temps et d'évoquer le moindre souvenir épisodique de sa vie.
Je vous propose de marquer une première pause si vous le voulez bien, Pascal Piolino. Nous poursuivons dans quelques instants la suite de notre émission. À tout de suite.
Les Français sont râleurs, tricheurs, corrigent leurs interlocuteurs et résistent à la mondialisation. C'est ainsi que Christophe Campos nous livre les stéréotypes des Français du point de vue des Canadiens et Québécois. Une émission éclairage qui ne manque pas de caractère, à télécharger librement sur Canal Académie.
Suite de notre émission éclairage, toujours en compagnie de Pascal Piolino sur la mémoire autobiographique. Avec vous, Pascal Piolino, nous reprenons donc notre émission. Dans votre communication réalisée en février 2009 à l'Académie des sciences sur ce sujet, vous avez mis en avant les effets de l'âge et surtout une dissociation, où en fait une personne qui commence à prendre de l'âge, qui commence à vieillir, sa mémoire sémantique commence à prendre plus d'importance. Ce qui fait d'ailleurs que nos grands-parents ou nos aïeuls se souviennent parfaitement d'anecdotes très anciennes. Et il me semble qu'à partir de cette information-là, vous avez pu développer des recherches. Vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Donc, nous avons développé des outils particuliers pour justement, comme je vous le disais, tester les deux aspects épisodiques et sémantiques de la mémoire autobiographique. Et donc, on s'est intéressé aux effets de l'âge sur cette mémoire. Et donc, à la fois chez l'enfant et jusque à la personne très âgée, nous avons vu s'il y avait des différences au sein de ces deux aspects de la mémoire autobiographique. Et en effet, si je commence par prendre le début du développement, par exemple, chez le petit enfant, on voit que les premiers aspects de sa mémoire autobiographique qui se développent, c'est plutôt les aspects sémantiques, c'est-à-dire c'est savoir des choses sur son passé, alors que les aspects plus épisodiques, c'est-à-dire pouvoir revivre un épisode très particulier de sa vie avec les moindres détails du moment où on les a vécu, eh bien ça se développe beaucoup plus tardivement qu'on pouvait le penser avant. Et donc, on a fait des études où on montre que chez les enfants de 5 à l'adolescence, eh bien, cette capacité à évoquer des souvenirs épisodiques continue à se développer. Et donc, la mémoire sémantique, justement, prend moins d'importance au fil du développement en prenant du début. A contrario, si vous prenez donc les personnes qui commencent, comme vous le disiez, à prendre un peu de l'âge, eh bien, il se passe le phénomène inverse. C'est-à-dire que finalement, leur mémoire sémantique autobiographique est de plus en plus riche. Elle a vraiment beaucoup plus de richesse, on dirait, que même un sujet jeune. Mais leur mémoire épisodique s'appauvrit. Dans quel sens ? C'est-à-dire ils ont de moins en moins de souvenirs épisodiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont plus. Comme je vous le disais, il suffit d'en avoir quelques-uns pour avoir un sentiment de continuité et d'identité. Et donc finalement, ce qu'il leur reste, c'est les plus marquants pour leur sentiment d'identité. Et donc un phénomène particulièrement intéressant intéressant, c'est ce qu'on appelle le phénomène du pic de réminiscence. Ce pic de réminiscence, et il apparaît d'autant plus que l'on prend de l'âge, ce sont les souvenirs épisodiques de notre vie que nous avons vécu entre 10 et 30 ans et qui restent très vivaces avec les sujets, même très âgés. Et des études ont porté sur ce pic de réminiscence, puisque pour une fois que dans le vieillissement, quelque chose semblait encore plus riche que lorsqu'on est jeune adulte. Et les études ont montré que ce qui semble expliquer cette richesse de cette période de vie, même en termes d'épisodicité, ce serait le fait que ce sont des événements que l'on vit et qui sont particulièrement marquants pour la construction et le maintien de notre identité. Et donc ça, c'est intéressant parce que pour les patients, par exemple, et notamment on en reparlera tout à l'heure, mais la maladie d'Alzheimer, il est tout à fait important d'avoir des outils qui nous permettent de voir s'il y a encore une relative préservation de ce pic de réminiscence par rapport à d'autres souvenirs anciens qui sont très perturbés. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'il y a quand même une étincelle de souvenirs un peu plus vivaces, un peu plus imagés, émotionnels de cette période, on sait que ça va pouvoir constituer un travail de réhabilitation de la mémoire du passé lointain et de la mémoire du passé lointain autobiographique et donc redonner un sentiment d'identité au patient.
Alors est-ce que ça voudrait dire que une personne âgée a une construction de l'identité beaucoup plus stable qu'une personne qui aurait 30 ans par exemple, vu que sa sémantisation est beaucoup plus importante ?
Alors oui, il y a des phénomènes comme ça que nous avons montrés où il y a une certaine cristallisation, on dira, de notre sentiment d'identité, de notre construction d'identité. Néanmoins, les personnes âgées, entre guillemets, qui auraient un vieillissement réussi, c'est quand même des personnes qui restent toujours adaptées au présent et qui donc sont capables de pouvoir modifier un peu leur sentiment d'identité par rapport aux nouvelles expériences et en même temps de favoriser dans le rappel des expériences anciennes, celles qui permettent de les faire avancer et de se projeter dans le futur. Donc quelqu'un qui sait, même en vieillissant, utiliser sa mémoire pour finalement mieux s'adapter dans le futur, ça, c'est quelqu'un qui reste quand même assez flexible dans l'utilisation de sa mémoire autobiographique. Et en général, c'est ça un sujet âgé sain.
Dans votre article, et aussi au cours de la communication de février 2009, vous avez mis en avant une expérience que vous avez réalisée, qui s'appelle Thème Potasque, où vous parlez alors aussi bien des jeunes enfants d'âge préscolaire que de ces personnes âgées. Alors restons un peu sur les personnes âgées. Vous mettez en avant un groupe de personnes qui ont à peu près 70 ans et qui sont amenées à développer les faits marquants de leur époux. Vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, donc là vous faites allusion à une étude que nous avons réalisée en collaboration avec l'INSERM à Caen, dirigée par Francis Eustache, et avec à l'époque une étudiante de thèse qui s'appelle toujours Armelle Viard, mais qui n'est plus étudiante maintenant. Et donc, nous avons essayé d'imaginer des stratagèmes pour essayer de voir les bases neurales qui nous permettent, même en étant âgés, eh bien, de pouvoir évoquer ces souvenirs justement teintés d'émotions, de détails perceptivo-sensoriels. Et donc, on a eu l'idée de proposer à des couples vivant ensemble pendant des décennies, donc déjà phénomène rare, donc difficile, eh bien on a proposé au mari de nous donner des indices sur des événements marquants vécus par leur femme, mais reprenant toutes les périodes de leur vie, donc de la naissance jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 70 ans à peu près. Et sous la caméra IRMF, on a proposé donc aux personnes, aux femmes âgées, d'évoquer les souvenirs à partir de ces indices, par exemple le baptême de Pierre, et donc elle devait évoquer dans les moindres détails, comme si c'était hier, eh bien l'événement, le baptême de Pierre. Et donc on a regardé les bases neurales qui permettaient à ces personnes âgées d'évoquer de tels souvenirs.
Alors, quelles sont-elles, ces bases neurales, alors ?
Donc, les bases neurales, elles sont comparables, on va dire, à des sujets plus jeunes, peut-être plus bilatérales, c'est-à-dire elles impliquent peut-être le cerveau d'une façon plus bilatérale que les jeunes, mais bon, ça, c'est un phénomène un peu annexe. Non, elles impliquent à la fois tout un vaste réseau dont on connaît bien maintenant les éléments, donc des régions frontales qui participent au processus stratégique pour rechercher un souvenir. C'est rare quand un souvenir nous vient directement, il faut aller aller le trouver. Donc les régions frontales sont importantes. Et puis ensuite, il y a tous ces strates sémantiques dont je vous parlais, c'est-à-dire une période de vie, c'est caractérisé par plein d'éléments sémantiques que l'on connaît, donc comme les lieux où nous étions, les acteurs qui ont marqué cette période de vie. Et donc ça, c'est plutôt notre région temporale externe qui permet ça. Et puis nous avons la région dont je vous parlais, qui permet justement de pouvoir susciter la reviviscence de tous les détails perceptivo-sensoriels d'un événement particulier. Et ça, nous avons montré, et ça, nous sommes une des seules équipes à l'avoir montré, que c'est bien l'hippocampe qui nous permet ça, quelle que soit l'ancienneté du souvenir. Et bien sûr, les autres régions capitales, pour tout ce travail de reviviscence, ce sont les régions impliquées dans les phénomènes d'imagerie mentale. Et donc, c'est des régions dont on appelle, par exemple, le cunéus, le précunéus. Et voilà, tout ça, c'est un réseau qui va permettre un sujet, quel que soit son âge, d'évoquer un souvenir épisodique.
L'hippocampe semble toujours être présent, que ce soit pour la mémoire épisodique, sémantique, et de ce fait autobiographique. Pas sémantique, surtout pas.
Donc, c'est-à-dire que tout dépend de l'ancienneté du souvenir. Normalement, au départ, quand vous encodez, vous vivez un nouveau souvenir, un nouvel événement, vous allez avoir bien sûr votre hippocampe qui vous permet d'encoder ce nouvel événement. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, vous aurez plus besoin de cet hippocampe à partir du moment où le souvenir va perdre son inscription épisodique. Donc ça, on va dire que l'ensemble des modèles actuels de la consolidation sont relativement d'accord sur le fait qu'à partir d'un moment qu'un souvenir se sémantise, comme je vous le disais au départ, c'est-à-dire perd son inscription contextuelle, l'hippocampe n'est plus nécessaire. Là où les modèles, les auteurs, les chercheurs ne sont pas d'accord, c'est sur le fait que est-ce que l'hippocampe va néanmoins rester toujours impliqué, quelle que soit l'ancienneté du souvenir, à partir du moment où il reste dans un contexte épisodique, où vraiment le sujet revit un moment particulier de sa vie. Donc nous faisons partie des chercheurs qui pensent que oui, d'ailleurs nous l'avons démontré dans ce papier par exemple dont je citais, que bien sûr, dès lors que vous êtes en mémoire épisodique, quelle que soit l'ancienneté du souvenir, quel que soit votre âge, même si vous êtes quelqu'un d'âgé, eh bien vous avez besoin de cette petite région du cerveau pour susciter la reviviscence des détails perceptivo-sensoriels.
Mais alors apparemment vous ne pensez pas tous pareil. Vous êtes la majorité à penser que l'hippocampe joue un rôle important sur cette question-là, ou est-ce que vous faites partie de la majorité ou au contraire êtes-vous minoritaire ?
Alors je dirais que dans les études sur la mémoire autobiographique, je fais partie de la majorité. Mais si je m'inscris dans un contexte plus général sur les modèles de la consolidation, et donc ça va des études sur le rat jusqu'aux études donc connexionnistes, alors là je ne serai pas majoritaire, car le modèle majoritaire c'est plutôt détenu par quelqu'un qui s'appelle Larry Square, et donc qui lui pense que mémoire épisodique et sémantique c'est un faux problème, ça n'existe pas comme dissociation et que donc tout se décontextualise au fil du temps et donc tout devient indépendant de la mémoire, donc de l'hippocampe. Donc voilà.
Tout reste à faire en matière de...
Il y a encore des travaux à faire, mais pour un chercheur, c'est ça qui est passionnant.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause dans la troisième partie de cette émission. On a parlé des personnes âgées, on parlera peut-être de ces enfants d'âge préscolaire. Et puis, vous avez parlé à l'instant de modèles de consolidation. J'aimerais qu'on en parle aussi un peu plus juste après. À tout de suite.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Pascal Piolino. Dans cette troisième partie d'émission, Pascal Piolino, je le disais avant la pause, que nous allions parler alors rapidement des études que vous avez réalisées sur de jeunes enfants et sur leur mémoire autobiographique. Donc vous me disiez qu'effectivement, vous aviez parlé de l'essentiel au cours de la deuxième partie, mais pourquoi avoir réalisé une étude sur de jeunes enfants ? concernant la mémoire autobiographique ?
Bien, déjà parce que c'est particulièrement passionnant dans, vous savez, le phénomène d'amnésie infantile, on en parle tous, c'est-à-dire on a tous l'impression que les souvenirs qu'on a vécus tout petit, eh bien, on est incapable de les atteindre, on ne peut pas du tout les récupérer. Et donc, la question se posait, c'est est-ce que parce qu'on a perdu les indices qui nous permettent d'accéder à ces événements que nous avons vécus quand nous étions petits, ou est-ce que parce que finalement nous n'avons pas encore tous les développements cérébraux qui nous permettent d'inscrire les événements que l'on vit avec justement cette mémoire qu'on appelle épisodique et qui sont donc une partie importante de la mémoire autobiographique. Donc, selon, en fonction de cet intérêt, on a voulu voir si des enfants d'âge préscolaire, eh bien, ils étaient capables d'évoquer des souvenirs actuels, donc récents, un petit peu plus anciens, et puis des souvenirs, eh bien, de la période d'amnésie infantile. Et donc, là, nous avons en effet montré que, suivant l'âge des enfants, eh bien, ils sont de plus en plus capables d'évoquer, comme je vous le disais, des détails épisodiques de leurs souvenirs, et ils s'appuient donc moins sur leurs connaissances sémantiques. Mais phénomène intéressant, c'est que pour justement cette période d'amnésie infantile, donc je rappelle qu'en général, on la considère entre les 4 premières années de notre vie, eh bien, il n'y avait pas d'effet de l'âge. C'est-à-dire, quel que soit l'âge des enfants, eh bien, ils étaient comparables dans leur capacité à évoquer cette période de leur vie, qui était en général plutôt d'ordre uniquement sémantique, avec parfois, on va dire, quelques images quand même, comme on le sait tous, hein, parce qu'on a tous des souvenirs très précoce, des images perceptivo-sensorielles d'épisodes de notre vie, mais que l'on ne peut pas vraiment situer dans le temps, qui sont plutôt comme des images flash. Je ne sais pas si vous en avez, mais nous avons parfois des images flash de notre petite enfance, mais finalement qui ne sont pas vraiment situées dans un contexte spatio-temporel. Et donc, ces études nous ont montré que comment fait un enfant pour être de plus en plus performant, on va dire, pour évoquer des souvenirs très épisodiques de sa vie, eh bien finalement, il s'appuie sur le développement de ses autres systèmes de mémoire, c'est-à-dire meilleur il devient en mémoire sémantique, meilleur il est aussi dans ses capacités de mémoire de travail, puisque je vous ai dit que souvent, générer un souvenir épisodique requiert un travail, un effort cognitif. Il faut aller chercher les indices, et tout ça, c'est difficile pour un tout petit enfant, notamment lorsqu'il s'agit d'indices spatio-temporel, on sait que le temps c'est très très difficile pour un tout petit enfant, et donc plus il devient fort et capable d'avoir des processus stratégiques efficaces, eh bien meilleur il est pour aller récupérer des souvenirs autobiographiques. Par ailleurs, un autre élément important, c'est que la mémoire de soi devient de plus importante pour lui au fur et à mesure du développement. C'est-à-dire au début, l'intérêt pour la mémoire de soi, elle n'existe presque pas. Finalement, la mémoire de soi, c'est plutôt la mémoire de sa maman, son papa, c'est-à-dire les événements que ses parents nous disent « tu te rappelles de ça ?» Et donc, c'est plutôt leur mémoire à eux qui s'impose à nous. Mais au fur et à mesure, l'enfant apprend à prendre du plaisir, hein, et à savoir qu'il a ses propres souvenirs qui sont différents de celui d'autrui et qu'il peut confronter à celui d'autrui. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant aussi dans le développement du sentiment d'identité.
C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on fait travailler notre mémoire, plus les souvenirs vont s'inscrire rapidement et de manière détaillée, voilà, dans le cerveau.
Alors, on pourrait dire que dans cette... Oui, et puis en même temps, il y a d'autres aspects. C'est-à-dire qu'en effet, plus on va prendre plaisir à se souvenir, plus on va faire ce travail de reviviscence de notre passé, et plus en effet, on va avoir tendance à fortifier le réseau cérébral qui nous permet de revivre les détails perceptivo-sensoriels. Mais il faut qu'il y ait ce travail de reviviscence, parce que justement, vous parliez des sujets âgés tout à l'heure, s'il y a finalement l'idée de répéter, mais sans aller jusqu'à revivre, il y a au contraire le phénomène inverse, c'est-à-dire que votre souvenir devient de plus en plus une connaissance sémantique désincarnée, un script de vous-même, une information sur vous-même, comme les personnes âgées, très âgées, qui vont vous évoquer de la même façon exactement point par point l'épisode de la guerre ou l'anecdote fameuse, mais ils ne revivent pas. Et donc, c'est plus une connaissance sémantique et pas du tout un souvenir. Donc, répéter, oui, mais avec la reviviscence et pas uniquement en répétant et rabâchant.
Vous parliez également dans votre article et dans votre conférence, alors bien sûr, de l'importance, alors avec l'âge, donc les informations prennent de l'importance et glissent vers la mémoire sémantique, mais également de l'importance de l'émotion pour que ces informations restent en mémoire.
Alors oui, le phénomène émotionnel, dès lors qu'il s'agit de mémoire autobiographique, est tout à fait crucial, hein, puisque, en effet, les souvenirs que l'on conserve, ce n'est pas le petit déjeuner de ce matin, sauf si vous êtes arrivé quelque chose de particulièrement marquant, mais c'est bien, finalement, les souvenirs que l'on conserve et que l'on sélectionne à travers notre modèle d'identité et, bien sûr, notre vécu émotionnel. Donc, les souvenirs qui sont conservés dans le très long terme sont souvent des souvenirs émotionnels. D'ailleurs, ce phénomène émotionnel, c'est un phénomène qui va se répercuter parfois d'une manière négative. Et je pense à certaines pathologies, par exemple psychiatriques, par exemple à la dépression. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes dans un état dépressif, et donc votre état d'identité est d'être une personne où rien ne va, tout va mal, eh bien vous allez sélectionner dans votre vie et revivre que les événements négatifs. Et donc c'est comme un cercle vicieux, étant donné que ces patients vont être bien plus épisodiques pour évoquer les moindres événements négatifs de leur vie. Et au contraire, dès lors qu'il s'agira d'évoquer des souvenirs d'événements positifs, car ils en ont vécu comme tout le monde, eh bien là, ils s'arrêteront, ils resteront très généraux et donc ils ne pourront pas se revivre en tant que personne ayant vécu des événements positifs. Et donc, un des moyens qu'a le psychiatre pour essayer de justement prendre en charge, essayer d'interrompre ce cercle vicieux, eh bien, c'est justement d'aider un patient déprimé à pouvoir aller jusqu'à l'épisodicité également des événements positifs de sa vie afin que peu à peu son modèle d'identité eh bien, se change et puisse redevenir eh bien, à la fois positif et négatif.
Dans une dépression, en d'autres termes, ça voudrait dire que les épisodes positifs ont été rangés ailleurs, bien loin, et qui fait alors, que la personne ne se souvient plus de ces moments positifs.
Je ne pense pas que la métaphore de rangement, de oui. stock, ne soit bonne, parce qu'en plus de, si vous voulez ça, c'est plus des mécanismes fonctionnels. C'est-à-dire que vous avez des souvenirs, mais il y a des mécanismes qui nous permettent d'y accéder. Et donc, dans la dépression, ce qui va changer par rapport à quelqu'un qui n'est pas déprimé, c'est que ces stratégies de récupération vont être teintées du fait qu'il est dans une humeur délétère, négative, et que donc il va être plus capable de faire un effort cognitif dès lors qu'il y a une congruence à son humeur, et donc ça va lui permettre d'évoquer les souvenirs négatifs, alors que dans les souvenirs plutôt positifs, qui ne sont pas compatibles avec son modèle d'identité actuel, qui est celui de quelqu'un de déprimé, eh bien il ne va pas pouvoir faire l'effort cognitif pour accéder à ses souvenirs. Alors, ils sont tous placés pareil, mais seulement c'est le processus qui va être interrompu dans un cas et au contraire favorisé dans l'autre.
Parmi les pathologies, vous citiez au cours de l'émission la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie neurodégénérative, où petit à petit la personne, en l'occurrence souvent les femmes hein, qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer, perdent leurs souvenirs jusqu'à parfois même leur identité, sont perdues même sur un plan spatio-temporel. Quelles sont les zones qui sont touchées dans ce cas-là de la maladie d'Alzheimer?
Alors, donc, la maladie d'Alzheimer, oui, c'est tout à fait vraiment un problème d'actualité, puisque, comme vous le savez, c'est vraiment un problème de santé publique important. Et donc, ces patients, au départ, on va dire que c'est un peu comme dans le vieillissement normal, mais en pire, dans le sens que là, ils perdent complètement la capacité à évoquer des souvenirs épisodiques. Et donc, souvent même, on croit qu'ils sont capables d'évoquer les souvenirs très anciens, alors que les souvenirs récents ne sont pas bons, et souvent on appelle ça, nous dans notre jargon scientifique, la loi de Ribot, le gradient de Ribot, le fait que l'ancien soit meilleur, mieux préservé, plus longtemps préservé que le récent dans les pathologies, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Mais en fin de compte, justement en utilisant des tâches fines comme le tempo dont vous avez parlé en début d'émission, on a vu que certes il y a plus de souvenirs anciens que de souvenirs récents, mais ces souvenirs souvenirs anciens dans la maladie d'Alzheimer, même au début, eh bien, ils sont d'ordre sémantique, c'est-à-dire ce sont des représentations génériques du passé. Et même s'il évoque son mariage, il va dire des choses très générales, comme le matin, j'ai été mariée à l'église, l'après-midi, on a fait telle ou telle chose, mais il sera incapable d'évoquer, pourtant c'est son mariage, le moindre épisode.
Ça restera factuel.
Alors, mais ça, c'est au début de maladie. Et malheureusement, au fur et à mesure, au décours de la maladie donc, et de l'atrophie qui gagne toutes les régions cérébrales, eh bien, les régions qui stockent aussi les aspects sémantiques, et donc là, je vous en ai moins parlé, mais c'est justement l'autre partie du lobe temporal. Je vous ai parlé beaucoup du lobe temporal interne, oui. Donc la partie interne du lobe temporal, mais la partie externe, celle qu'on appelle le pôle temporal ou le lobe temporal latéral, eh bien, c'est plutôt une région qui stocke les aspects sémantiques, et notamment sémantiques autobiographiques, eh bien, devient aussi atrophiés, lésés, et donc les patients peu à peu perdent les éléments aussi sémantiques de leur vie. Et donc, sans éléments sémantiques autobiographiques et sans éléments épisodiques, eh bien, ils deviennent comme figés dans un présent, incapables de se projeter et même de connaître des choses sur eux-mêmes dans le passé, et donc, bien sûr, incapables d'avoir des capacités à envisager un futur. Et donc, bien sûr que lorsque c'est très, très tardivement que l'on prend les patients, on ne peut pas grand-chose pour eux. Mais lorsqu'on les prend en début de maladie, voire à un stade léger à modéré, on peut, grâce à ce que je vous avais dit au début, partir de ce qui reste encore préservé pour essayer de fortifier, de reconstruire un sentiment d'identité et de continuité. Et donc, nous avons réalisé, toujours en collaboration avec l'INSERM, des études où nous avons comparé deux groupes de patients Alzheimer. Un groupe de patients Alzheimer où on leur proposait une prise en charge basée justement sur l'idée de les aider à reconstruire leur passé, et des patients sans prise en charge. Eh bien, on a pu montrer que au début, ils étaient comparables en mémoire autobiographique, mais à la fin, le groupe auquel on avait proposé cette prise en charge, qui s'appelle un programme REMO, eh bien, avait accès à des souvenirs, alors je dirais, sans le cacher, plutôt sémantisés que très épisodiques, hein, puisque, oui, bien sûr, les bases neurales, on ne peut pas les récupérer, mais néanmoins capables encore d'évoquer des détails émotionnels et perceptivo-sensoriels, même s'ils sont issus d'événements un peu comparables. Et, alors, résultat intéressant qui mérite d'être confirmé, cet accès amélioré aux souvenirs et aux connaissances de soi était maintenu dans le temps, même en arrêtant la prise en charge.
Et quels étaient les exercices en question, enfin, si c'était
ben,
des
c'est
exercices.
Une idée où on reconstruit l'axe chronologique des patients grâce à des indices fournis par la famille, mais grâce aussi à des banques de données faites de musique, faites de photos de personnes célèbres. Donc on leur fait reconstruire les différentes périodes de leur vie en aspects sémantiques. Donc les personnes connues à l'époque, les personnes que vous connaissiez à l'époque, l'endroit où vous viviez. Donc au début, il y a beaucoup de trous, hein, et au fur et à mesure, cet axe chronologique prend corps, si vous voulez, il y a de moins en moins de trous. Et à partir du moment où ça, c'est bien restructuré, eh bien, on va faire recontextualiser à partir de chaque information sémantique, eh bien, un souvenir le plus épisodique possible, le plus perceptivo-sensoriel, et redonner un peu goût à l'épisodicité que souvent ont perdu les patients qui ne savent plus trop qu'est-ce que c'est qu'un souvenir épisodique, qu'est-ce que c'est qu'un souvenir sémantique. Et donc, ça marche, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on permet vraiment à des patients de se reconstruire un petit peu. Et en tout cas, ça leur plaît. Donc, ce qui est déjà
une bonne chose.
Très positif. Et ça leur plaît. Et puis même dans la vie de tous les jours, il y a des retombées. Dans le sens que dans les institutions, le patient va avoir de nouveau à parler de lui aux autres donc, personnes qui sont dans la même institution. Et donc, ça régénère un certain contexte social. Et donc, c'est tout ça.
Et
est
les
très
revaloriser,
voilà,
ne plus exactement. Comme patient, et parce
fait.
Que ce sont des personnes qui sont quand même voilà. conscientes de leur maladie.
Exactement.
J'imagine qu'il y a aussi d'autres pathologies dans lesquelles la mémoire autobiographique intervient.
Oui, malheureusement, étant donné que je vous ai un peu expliqué succinctement, certes, mais que cette mémoire était sous-tendue par un vaste réseau cérébral, oui. Bah, vous imaginez que pour des raisons lésionnelles, eh bien, très diverses, vous pouvez avoir des troubles de la mémoire autobiographique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes lésé plus dans la région frontale, alors ça peut être pour des maladies neurodégénératives. Il y a une maladie qui est très fréquente au-delà de la maladie d'Alzheimer, dont on parle un peu moins, qui est ce qu'on appelle la démence frontotemporale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, c'est une maladie neurodégénérative, mais dont l'atrophie commence par la région du lobe frontal. Eh bien, eux, ils vont aussi avoir des troubles de mémoire autobiographique, mais parce qu'ils n'arrivent pas à générer le processus stratégique qui permet d'évoquer les souvenirs. Vous avez d'autres types de maladies où là, c'est d'autres régions, comme par exemple d'autres types de maladies neurodégénératives, où ça, c'est plutôt la partie externe du lobe temporal dont je vous ai parlé, qui stocke la mémoire sémantique autobiographique, qui est atteinte. Et donc, bien sûr, les patients vont avoir du mal à reconstruire les souvenirs. Et puis, des patients qui, pour d'autres raisons, auraient des atrophies ou des lésions plus postérieures, là où sont stocker les détails perceptivo-sensoriels, ils vont également avoir des difficultés. Donc vous voyez que finalement, beaucoup de patients, pour des raisons très diverses, parce que ça intéresse une région clé dans la mémoire autobiographique, vont avoir des troubles. Mais résultat encore plus impressionnant, c'est que ce réseau, les régions sont connectées par des faisceaux, et donc il suffit d'avoir une disconnexion dans ces faisceaux pour interrompre le circuit des souvenirs. Et donc, vous avez des patients qui ont ainsi, pour une toute petite lésion, mais vraiment minuscule, parfois même imperceptible avec nos moyens actuels de neuroimagerie, eh bien, ils n'ont plus de passé. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les régions, les patients qui ont des troubles d'identité, des amnésies d'identité totale. Ils ne savent plus qui ils sont. C'est un peu l'image du patient qui a perdu toute sa mémoire. On voit ça dans certains films. Hein. C'est un peu le stéréotype. Alors, c'est très rare, en fin de compte, ce type de patient dans la réalité. Mais il en arrive néanmoins des patients qui, pour une raison lésionnelle, même infime, eh bien, interrompt tout le circuit qui participe à récupérer des souvenirs. Alors, je ne parle pas d'autres aspects, mais il y a bien sûr des aspects psychogènes qui peuvent aussi expliquer que vous avez une rupture avec votre mémoire du passé lointain.
Vous parliez donc des amnésies. Il y a aussi des cas d'amnésie où les personnes sont amnésiques pendant un temps et retrouvent petit à petit leur mémoire. Alors, quel est le mécanisme qui fait qu'ils retrouvent leur mémoire? J'imagine que c'est très complexe.
C'est un peu comme je vous disais, mais à contrario. Ouais. C'est-à-dire, comme c'est un réseau, donc vous avez des lésions cérébrales qui sont réversibles. Et donc, bien sûr, cette perturbation du réseau peut être temporaire, alors que d'autres sont permanents. Et donc, bien sûr, quand c'est temporaire, eh bien, ça revient au fur et à mesure.
Je vous remercie, Pascal Piolino, pour vos explications passionnantes sur la mémoire autobiographique. Je rappelle que vous êtes maître de conférences, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Descartes à Paris. Et j'aimerais citer l'article dont on a beaucoup parlé. Alors, le temps que je retrouve mes petites feuilles, peut-être que vous pourriez nous en dire plus, qui est paru.
Alors, c'est un papier qui est une presse dans une revue qui s'appelle Neuropsychologia. Et donc, c'est un papier qui reprend, disons, tous nos travaux réalisés en collaboration avec l'INSERM sur la mémoire autobiographique et notamment avec un nouveau paradigme dont vous avez cité le nom qui s'appelle le tempo. Et donc, ça va des bases cognitives aux bases neurales de cette mémoire dans différentes pathologies. Et donc, c'est issu d'une conférence que j'avais donnée à Tallinn en l'honneur, justement, des 80 ans d'Endel Tolving.
Eh bien, je vous remercie. Et donc, j'indique le site internet sur lequel, j'imagine, on peut retrouver l'article, qui est www.elsevier.com, L-S-E-V-I-E-R.com, sur lequel donc on retrouve bien sûr votre signature, mais aussi celle de Béatrice Desgranges et de Francis Eustache que vous avez cité au cours de cette émission. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.